Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
De Chavannes cherche copains. Mais c'est quoi ce truc?
Bah oui, je cherche des copains. Alors c'est un podcast, mais où effectivement je vais rencontrer des gens. Je m'enflamme pour des causes. Défenseurs de cannabis, vaccinologues, des stars du dessin, des médias, des auteurs, des associatifs, des hommes politiques. Attendez, on est allé jusqu'au président de la République, vous voyez. Des blogueuses, des blogueurs, des jeunes, des moins jeunes. Et puis des TikTokers. Des TikTokers. Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même. Ouais. De Chavannes cherche copains. Des copains. De Chavannes cherche copains. A tout de suite, les amis.
Bienvenue à tout le monde dans ce podcast assez épatant, hein, quand même, qui s'appelle De Chavannes cherche copains. Là, on est un peu dans Cherche copine, puisque je suis avec Crazy Sally.
Hello.
Hello, comment ça va?
Très, très bien.
Bonjour. Alors, Crazy Sally, je ne me vois pas vous appeler Crazy dans la vraie vie.
C'est vrai?
Ouais, les gens vous appellent Crazy. Salut Crazy!
Non, ça m'est déjà arrivé quelques fois et je ne comprends pas comment les gens ne peuvent pas comprendre que c'est Sally à la base.
Voilà.
Mais ça m'est déjà arrivé, ouais. Et c'est pour ça que maintenant, j'enlève la particule. C'est surtout Sally, 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 Sally.
Qui êtes-vous, Sally? Parce que moi, je vous ai rencontré sur quelle époque?
Mm-hmm.
J'étais ravi, d'ailleurs, c'est super bien passé.
Ouais, c'était
cool.
Super,
hein.
C'était super cool.
Vous avez à peine 25 ans. Et vous êtes créatrice de contenu engagé.
Ouais.
Mais je veux savoir comment ça a commencé, moi.
Comment ça a commencé? C'était à Londres, il y a 4 ans. Et en fait, je travaillais là-bas et j'étais toute seule. C'était la première fois en plus que je
Qu'est-ce que vous faisiez là-bas?
J'étais juriste là-bas. Donc d'accord. Moi, j'ai fait des études de droit. Je sortais de mon master de droit pénal et sciences crimes. Et je pars à Londres parce que j'ai sauté deux classes. Et donc, j'avais des années en gros.
Tellement vous êtes intelligente.
Non, mais mes parents étaient à fond dans le côté académique. Et c'est vrai qu'on était très...
Vous avez sauté de classe avant le bac?
Oui, avant le bac.
Donc ouais. Vous avez eu votre bac à 16 ans?
À 15 ans, ouais. Ah. Ouais, bac à 15 ans.
Pas mal.
Donc sur le CV, c'était très cool, mais malheureusement...
Mais quand t'étais en terminale, donc,
ouais.
Je peux vous dire tu?
Oui, tu, bah, bien
parce que
sûr.
Vous pouvez être ma fille, hein,
franchement. Oui, bah, franchement, non, moi je tutoie, donc vas-y.
Donc vous étiez à 15 ans en terminale avec des mecs de 18, 17?
Exactement.
Et c'est quoi ça le problème s'il y en a un?
Ben, moi, je trouve que c'est quand même un décalage qui peut être compliqué sur le développement de soi.
C'est la raison pour laquelle je pose la question.
Ah bah oui, totalement. C'est quelque chose que moi, j'ai surtout ressenti dès la seconde, parce que je suis arrivée en seconde, j'avais
14
ans. 13. J'avais 13 ans en seconde.
Ah oui, parce que tu as sauté la première?
Non, j'ai sauté...
Avant?
Avant. Okay. C'était primaire, etc.
D'accord.
Donc moi, j'arrive en seconde, j'ai 13 ans,
et oui.
Avec que des gens de 15 ans, et ça, 15 voire 16.
Et là, mine de rien, c'est un gros écart.
Mais c'est un énorme écart, parce qu'il y a...
C'est de pré-ado à ado.
Oui, c'est ça. De pré-ado, voire un peu enfant encore, à vraiment teenage. Et en fait, moi, je me retrouve donc en seconde avec des gens qui ont tous des copains, qui font leur première sortie, qui commencent à boire, à fumer à la cour de récré, enfin à la pause, du coup, au lycée. Et moi, je me retrouve dans ce microcosme-là où moi aussi, bah, j'ai envie de validation, en fait, qu'on le veuille ou non. Et déjà que j'avais ce côté très intello...
T'as envie de validation?
Bah, de dingue.
Ça veut dire quoi, ça?
Bah, de validation, j'ai envie de faire partie du groupe.
Ok.
J'ai envie de faire partie du groupe. J'ai pas envie d'être l'intello qui est toute seule et qui traîne avec les deux autres intellos de la classe. Parce que moi aussi, j'ai toujours eu ce côté où j'aime beaucoup les gens, j'aime parler et j'aime avoir... des amis,
rien à voir avec la couleur noire. Hein.
Non, ça n'avait rien à voir à ce moment-là avec ça.
Oui, parce que ceux qui ne te connaissent pas, oui. On n'a pas dit que tu étais noire, par exemple.
C'est vrai,
on s'en
ils
fout.
Ils ne peuvent
hein.
pas savoir. Ouais,
mais ouais. Bon, voilà.
Non,
ça,
c'était,
ça peut avoir ton importance dans l'intégration.
Ça l'a eu après, voilà. Ouais, par la suite. Mais là, quand je suis au lycée, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment juste le fait que j'ai une grande sœur, en fait. J'ai une grande sœur d'un an et demi, mais on a grandi presque comme des jumelles, qui, elle, a sauté deux classes aussi, du coup. Donc, on est deux à avoir sauté deux classes dans ma famille. Elle a vraiment mal vécu. À Strasbourg.
Okay.
On a grandi toutes les deux, toute ma famille à Strasbourg.
Et elle, elle a mal vécu?
Elle, ça a été plus compliqué pour elle, parce qu'elle avait un caractère très introverti, ma sœur. Et donc, elle est vraiment rentrée dans ce côté, c'est un peu l'intello, et elle avait toujours son ami intello avec qui elle traînait. Et moi, je l'ai vu, j'ai vu son évolution, et j'ai vu que c'était pas ce à quoi je voulais tendre. Et j'ai naturellement un caractère très extraverti. Donc, quand je suis arrivée en seconde, très jeune du coup, je voulais à tout prix m'intégrer, je voulais fit. Je voulais moi aussi.
Ça t'a flippé de voir ce que vivait ta sœur
ouais,
peut-être aussi.
Ouais, vraiment. Donc il y a eu ce côté où moi je voulais aller de, tu vois, dans l'autre chemin, dans le chemin de, je m'intègre avec les gens, je fais comme les autres.
Est-ce que tu mentais sur ton âge?
Non, j'ai jamais menti, je pouvais pas mentir. J'étais.
Si, tu pouvais d'âge à 15 ans.
C'est vrai, mais non, parce que les profs, ils le savaient, ils allaient m'afficher. Donc, non, je mentais pas sur mon âge, mais j'ai menti sur plein d'expériences de ma vie. C'est-à-dire que moi, à 13 ans, je dis que j'ai un copain, je pars carrément créer un faux profil Facebook de mon mec, parce qu'à l'époque, c'était Facebook, pour dire que, ouais, non, mais si c'est mon mec, regardez, il a un Facebook.
Et c'est toi qui l'as créé, le truc.
Ouais, c'est moi, et je mettais sur Facebook, du coup, en couple avec. Et en fait, c'était moi, en fait. C'était mon compte que j'avais créé, mais juste pour.
T'as inventé
cette
une vie.
Validation, ouais, j'inventais des vies, je disais que j'allais à des concerts, j'avais pas le droit d'aller aux concerts, j'avais pas le droit d'aller en soirée, j'avais que 13
ans. Les parents étaient un peu stricts. Ah non, 13 ans, non,
on a bah oui, mais finalement, tu vois, avec moi, avec l'âge, maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis, mais c'est normal en fait qu'ils m'interdisent ça.
Quand t'as des mômes, tu les laisseras pas partir au concert à 13 ans.
À 13 ans.
Bah non, ça c'est sûr.
Donc c'est ce qui s'est passé, mais moi, du coup, je mentais. Je disais que si, moi, j'étais au concert aussi, moi, j'étais à cette soirée, moi, j'étais là. Et donc c'est là où, sur le développement de soi, ce saut de classe, il a été compliqué. Ça a laissé des petites séquelles quand même.
Le développement de soi, ça t'a donné envie un jour d'en parler aux autres ?
Oui, parce que je suis passée par beaucoup de choses. Il faut savoir en plus que j'ai développé pas mal de TCA moi pendant mon enfance, enfin pendant mon adolescence.
Pas mal de ?
De TCA, donc c'est des troubles du comportement alimentaire.
Ok.
Justement parce que bah à 13 ans j'arrive, j'étais franchement je peux même pas dire que j'avais de l'embonpoint quand je regarde mes photos, j'étais un enfant tout à fait normal, mais j'arrive du coup avec énormément de jeunes ados qui elles sont déjà dans ce côté féminin, femme, etc. Plaire beaucoup aux garçons, etc. Et le standard de beauté, c'était des nanas bah, super minces à l'époque. Il n'y avait pas encore la mode, des formes, etc. Donc, nanas super minces. Moi, j'étais normale, mais pas mince. Tu vois, j'avais pas un corps mannequin. Et je commence à développer ce complexe et à rentrer dans des histoires de régime. Je faisais des régimes drastiques à base de protéines, etc., alors que j'avais que 14 piges. Quoi. Mmh. Et donc, bah, ça s'est transformé dans
des carences, des
dans des grosses carences et dans des attitudes très compliquées avec la nourriture. Et ça, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je galère un petit peu avec. Ça fait deux ans que ça va mieux.
Tu t'es suivi?
À un certain moment, j'étais suivie, mais après, j'ai arrêté, parce que je me sentais prête à ne plus être suivie. Mais c'est des choses qui restent. Quoi.
C'est relou, hein?
Ouais, c'est vraiment dur.
Et ça touche beaucoup de gens.
Ben, beaucoup plus.
Et beaucoup de gens de ton âge aussi.
Ouais. Oui, totalement.
Bah, mais
oui,
ça
oui.
S'arrête après, il paraît.
J'espère.
Ouais, moi aussi.
J'espère. Parce que je pense que c'est malheureusement quelque chose qui devient une habitude. Une fois que tu le fais une fois, tu retombes facilement.
Bah, ça s'appelle des crises en plus, tu l'as par
ouais,
crise.
Ouais, c'était
je connais une jeune fille qui a ça aussi.
Ouais, c'est super.
Quoi, c'est compliqué, ouais.
Très embêtant.
Ouais.
Donc bon, après là maintenant j'arrive à vivre avec, hein. C'est plus comme avant où ça m'empêchait de sortir, d'aller au resto.
Et avec comment t'es avec tes parents?
Je m'entends très bien avec mes parents.
D'accord.
La relation est devenue meilleure avec l'âge. Plus okay. Je grandis et plus.
Bah, quand t'étais jeune, c'est compliqué?
Très compliqué. Après, enfin,
tu penses que c'est un petit peu lié avec les problèmes entre guillemets? Qui ne sont pas gigantesques à l'œil, en tout cas, mais ouais. Ces problèmes de troubles comportement alimentaire.
Oui, il y a de ça, parce que moi, j'étais dans une famille où les enfants étaient minces. Ma sœur était très mince. J'ai eu beaucoup... Quand j'étais jeune, j'avais vraiment ce côté presque concurrence avec ma sœur, parce qu'on était très proches, un an et demi d'écart. On était toutes les deux... Bah, on se ressemblait beaucoup, et puis on était toutes les deux à fond à l'école. Et puis, enfin bref, il y a eu ce côté où on était très liés. Et donc forcément, dans les records académiques... Tout comme physiquement parlant,
oui, joli, hein.
on se comparait beaucoup. Donc ma sœur, elle était super mince. Et on me faisait souvent la réflexion, en mode, oui, mais tu vois, ta sœur, elle est mince, donc fais attention à ce que tu manges, etc. Et donc ça a créé une concurrence, et ce qui faisait que même au sein de ma famille, je faisais attention à ce à quoi je ressemblais, tu vois. Genre moi, je me souviens, c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, moi, sur mon bol, donc on mangeait beaucoup de soupe chez moi, et sur mon bol que j'avais, c'était le mien, il y avait marqué, attention, n'oublie pas ton régime. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes.
Ah non, c'est
mais
pas tout bête.
Ouais, mais pour les parents, ils ne s'en rendent pas compte.
Tu vois. Non, les pauvres, ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est des choses, évidemment, de ne pas faire.
Ah ouais, quoi. Parce que du coup, ça labellise. Et c'est pour ça que...
Oui, c'est ça, oui. C'est très diminuant.
Oui, diminuant, un petit peu dénigrant, ouais. Mais encore une fois, ils ne se rendaient pas compte. Et c'est vrai que j'ai pu
donc
en discuter par la suite avec mes parents. Ouais. Quand j'étais jeune, je ne dirais pas qu'on avait des relations compliquées, mais je dirais qu'il y avait quand même... c'était un peu conflictuel, quoi. Il y avait quand même pas mal de choses que je ne comprenais pas. Qui m'ont marqué d'un point de vue comportemental, tu vois. Mais après, en grandissant, avec l'œil et puis l'apaisement, l'assagissement aussi, avec la...
Ouais, et regarde, ça fait de toi aussi, apaisé. Celle... parce que je t'ai un peu suivi, j'ai regardé, je regarde ce que tu fais, t'es formidable ouais. Aussi.
Ah, merci.
Non, mais tu vois, donc, je pense que ces cailloux-là, qui ont été durs à becter, ont peut-être fait de toi celle que t'es aujourd'hui. C'est...
Ouais, mais bien sûr.
De toute façon, il faut optimiser en disant ça.
Ah non, mais bien sûr. Non, mais c'est sûr. Moi, je pense que de mon enfant, j'ai eu un caractère de feu. J'ai un tempérament très, très solide, quelqu'un d'un petit peu fragile. J'ai mes fragilités, bien évidemment, comme n'importe quelle personne, je pense. Mais j'ai une énorme volonté, une grosse détermination, certaine confiance en moi quand même que j'ai dû me créer parce que j'étais dans un environnement où je recevais pas forcément les compliments qu'il fallait. Quoi.
Et tu t'intéresses aux autres, donc ?
Énormément.
Voilà.
Je suis beaucoup dans le partage.
Ouais.
Énormément, énormément.
Moi, j'aime bien ça, moi.
Oui, bah beaucoup. Mais c'est de là où, d'ailleurs, j'ai fait des études en droit. Parce qu'à la base, moi, j'étais dans cette idée de devenir avocate, de défendre. Enfin, il y a un livre que j'adore qui s'appelle « Les cinq blessures de l'âme » de Lise Bourbeau. Et en le lisant énormément, je me suis rendu compte que moi, mes blessures intérieures, c'était la trahison et l'injustice. Et je pense qu'il y a une manière inconsciente qui a été de réparer cette blessure d'injustice en travaillant dans tout ce qui est droit. Donc, défendre les personnes à qui on ne donne pas la parole... écouter les problèmes des gens, comme si moi, c'est ce dont j'avais eu besoin quand j'étais jeune, on ne me l'a pas donné. Et du coup, pour me réparer, je le donne aux autres. J'ai beaucoup cette relation-là avec les gens. C'est comme si je me répare en réparant les autres.
Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire.
Donc voilà. Et c'est pour ça que je fais du droit. Et même ce que je fais sur les réseaux aujourd'hui, c'est un peu de l'avocature 2.0. Quoi. Je donne... J'utilise ma parole pour... éveiller la conscience collective sur des problèmes de personnes qui n'ont pas forcément leur voix. Par exemple, les personnes issues de la communauté noire, les femmes...
Alors, parlons de la communauté. Ouais. Alors, on dit, il ne faut pas dire les noirs.
Ah si, totalement,
ça
les
va,
noirs.
Ça va, d'accord.
En fait, c'est comme je m'apprêtais à faire une phrase longue.
Non, j'ai fait gaffe maintenant, parce que comme je suis un vieux, moi...
Ah non,
tu vois,
bah,
je
ne
sais
non,
pas...
Non,
c'est, ce, je ah, suis... non. Quelquefois, je dis des mots, on me dit « Ah ben non, il ne faut plus dire ça. »
Ah exemple, non, moi, jamais eu de
bon,
problème.
Ça a débuté où tu as partagé des astuces cheveux.
Ouais.
Elles sont beaux, tes cheveux.
Merci. C'est de là où ça a commencé, en fait. Ben justement, pour reprendre du coup au départ, j'étais à Londres, je venais sortir de mon M2, et moi, je préparais l'avocature, sauf que j'étais trop jeune, du coup, parce que j'avais sauté, j'ai fait ce saut de
Ma sœur est avocate à 21 ans.
Ah bah purée. Et ça ne l'a pas dérangée
Je ne sais pas, parce qu'elle n'est plus là, la pauvre chérie, okay. Mais c'était une des plus jeunes avocates de France.
Bah ouais.
Avocate,
Bah, félicitations, mais c'est vrai que moi, niveau crédibilité, j'avais peur que si je suis trop jeune, on n'allait pas trop me prendre au sérieux. Donc je m'étais dit.
Mais elle s'est fait avoir, par exemple, quand elle était avocate, elle a commencé pénaliste, et elle s'est fait avoir par un proxénète qu'elle a défendu sauver.
Ouais.
Et en passant à côté d'elle, le mec, il a dit je t'ai bien niqué, et ça l'a détruite. Et elle était trop jeune.
Ouais. Ouais.
Donc après, elle a fait autre chose.
Oui, oui, okay.
Mais en tout cas, elle a arrêté le pénal immédiatement.
Ça l'a dégoûté, ouais. Ça ne m'étonne
ouais.
pas.
Ouais, ouais. Ouais, elle était jeune.
J'avais peur d'avoir pas forcément ce
le
genre
pénal,
de peur.
Le pénal, faut être costaud. Hein.
Ouais, de pas être assez prête. Et du coup, je me suis dit, je vais utiliser ces 2 ans pour faire des années sabbatiques, enfin travailler, parce que j'étais en VIE. En tant que juriste,
t'étais
à Londres, en VIE.
Excuse-moi.
C'est, tu sais, voyage d'intégration, quelque chose comme ça.
Ok.
En gros, tu travailles, mais c'est à l'international, c'est avec Business France, c'est super
stylé. C'est à la cool.
S'il y a des étudiants qui m'écoutent, faites des VIE, c'est top sur le CV. Et puis en plus, t'es pas imposé sur tes revenus. Enfin, c'est trop cool, franchement.
T'es pas quoi
T'es pas imposé sur tes
revenus. Alors, j'ai un problème où tu articules peu.
Ah oui, non, je sais pas, c'est pas, je parle très vite, on me le dit toujours.
D'accord, d'accord.
Donc,
d'accord.
Je vais faire un effort.
Mais c'est tout est compréhensible.
Stepping back.
Non, mais c'est moi. T'es,
et je vais articuler.
T'emmerdes pas.
Et donc, en tout cas, c'est là où je commence. Je suis à Londres, je suis seule, je m'ennuie. Et on me demandait toujours des conseils cheveux. Je me suis dit,
mais pourquoi on te demandait des conseils
cheveux? Parce qu'ils étaient longs. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais expliquer aux gens comment j'ai eu des cheveux longs.
Mais c'était des noirs qui te demandaient des conseils cheveux.
Oui, très souvent. Oui, 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 très, très, très souvent. Dans l'inconscient, chez les Noirs, on a ce côté où on pense que les femmes noires n'ont pas de cheveux ou que les cheveux poussent très lentement, etc. Alors que c'est pas vrai. Et du coup, let's go, j'ai fait plein de vidéos tutos sur comment je prends soin de mes cheveux. Et ça a très bien fonctionné. Et puis après, j'ai commencé à faire de la vulgarisation du droit parce que c'était ma passion à la base. Donc, c'est ce que j'ai fait aussi sur les réseaux. Et puis après, c'est devenu très engagé et j'ai adoré. Et à partir de là, je me suis laissé prendre au jeu.
Qu'est-ce que tu penses? Et après, on passera à autre chose que des cheveux.
Ouais.
Tu te les as lissés parfois?
Ouais, plains-toi. J'ai défrisé mes cheveux.
Et c'est quoi l'idée de ce lycée pour les femmes?
Intégrer.
C'est ça.
S'intégrer. Tu vois, c'est toujours ce côté de s'intégrer et de ressembler un peu aux autres. Parce qu'à un certain moment, l'être humain est un animal social. On a envie de faire partie du groupe majoritaire. Tu vois.
Okay.
Et donc, il y a ce côté-là où, tu vois, t'es là avec tes cheveux crépus, tes cheveux afro. Les gens, ils voient ça en mode « Ah, c'est rigolo, tu vois ?» Genre « Ah, t'as des cheveux comme ci, t'as des cheveux comme ça. » Et toi, non, t'as pas envie d'être rigolote, t'as envie d'être belle, t'as envie que les gens te regardent, t'as envie que tes copines, elles te regardent aussi en mode « Ah, t'es trop belle, etc. » Tu vois. Et c'est ce qu'on cherche. Malheureusement, moi, aujourd'hui, j'ai réussi à m'en affranchir. Mais quand t'es petite...
Là, ils sont quoi? Ils sont afro?
Non, là, ils sont pas encore.
Ils sont quoi?
Pas afro. Afro, c'est comme quand j'étais à quelle époque?
Comme ça, oui.
Ouais. Là, ils sont quand même un peu quoi.
Tu les as un petit peu lissés depuis.
Un petit peu.
Un petit coup de.
Ouais,
un petit lisseur.
Yeah.
Et alors, après, tu t'engages sur quoi alors?
Directement, c'était sur la cause noire. Donc, directement. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à faire du décryptage d'affaires juridiques. Et après, une fois, je ne sais pas pourquoi, j'avais vu une phrase qui m'avait dérangée. C'était on avait comparé, je pense, en disant que l'esclavage n'était pas aussi grave que la Shoah ou quelque chose comme ça. C'était Christine Angot qui l'avait dit à l'époque. Et j'avais fait une vidéo réaction, mais sans savoir que ça allait blow up comme ça. Et donc, je dis une vidéo réaction toute simple en disant il ne faut pas comparer les souffrances. La Shoah, c'était extrêmement grave. L'esclavage, c'est extrêmement grave aussi, etc. Blablabla. Ça tourne, ça devient viral. Et à partir de là, je reçois plein de messages de gens qui me disent « Est-ce que tu pourrais aussi parler de ci? Est-ce que tu pourrais aussi parler de ça? Est-ce que tu pourrais parler de ce thème? Est-ce que tu pourrais parler de ce thème ?» Et bien sûr, ma communauté à la base, c'était la communauté noire qui me suivait pour mes cheveux, etc., puis pour mes décryptages et tout. Donc, ça s'est fait de manière très organique. Et de là, j'ai commencé à parler de plein de faits de société, de plein de sujets.
Alors, comment tu fais dans ces cas-là? Ça veut dire que t'enquêtes, tu bosses, tu te rencardes?
Automatiquement.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au départ, il y avait ce côté très naïf, très immature d'un point de vue création de contenu, où j'allumais ma caméra et je disais ce que j'avais à dire. Et en fait, plus ça a commencé à prendre, et plus je me suis rendu compte que j'avais une responsabilité sur la qualité du contenu que je poste et sur ce que je dis, en fait. Parce que faire 500 000 vues où tu racontes n'importe quoi, c'est pas du tout intéressant pour moi. Tu vois, moi, je voulais que mon propos soit qualitatif pour que je sois fier de ce que je dis.
Bah, sinon, ça ne durera pas, de toute façon.
C'est exactement ça. Et si ça devient viral, au moins, j'ai rien à me reprocher. Donc, je commençais à beaucoup bosser.
Mais on t'interroge sur quoi? C'est des jeunes plutôt? Des filles plutôt?
Franchement, de tout.
De
ma
tout.
Communauté aujourd'hui, c'est quand même 70% de meufs.
T'as combien de
30%
de followers?
Au total, sur Instagram, 920 000.
C'est énorme.
Ouais, c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Si tu mélanges avec YouTube, on est 640 000. Donc, au total, ça fait une très grosse présence Internet.
Ah. Et Twitter, non?
Twitter, je suis pas dessus.
T'es pas dessus du tout?
Je regarde, mais je n'ai pas de compte là-bas.
Ah merde.
Ouais, j'aime pas. Je trouve que c'est compliqué quand t'as un profil très engagé. Twitter, c'est très...
Ah oui, non, ça... Oui.
Tu vois, c'est un tensiomètre, je suis pas fan.
C'est... Oui, non, c'est compliqué, Twitter.
Puis tu peux pas t'exprimer réellement sur Twitter, je vais pas te mentir. À un certain moment, je voulais le recréer pour justement faire des débats directement sur Twitter ou pour me défendre, entre guillemets, quand il y a des tweets sur moi. Mais je me suis rendu compte que c'est pas du tout intéressant. C'est un cercle vicieux.
Non, c'est soit très journalistique, soit un peu haineux.
Oui, un peu beaucoup. Donc,
un peu beaucoup, ouais, c'est un peu compliqué.
Je trouve pas que c'est un beau moyen d'expression. Je préfère les autres plateformes, pour le coup.
Donc Instagram.
Instagram, YouTube.
Tu vas direct, tu fais directement des, tu te filmes donc, tu t'auto-filmes ou avec une copine, je sais pas, et tu vas directement poster sur YouTube.
Directement.
Donc ça veut dire que tu as une chaîne YouTube.
Et j'ai une chaîne YouTube où je filme mes vidéos, je les monte.
Et cette chaîne s'appelle
Créer Sally.
Voilà.
Quoi, je veux renommer Sally, mais j'attends encore un petit peu.
Et sur Instagram, c'est Crazy Sally aussi.
C'est Sally. Ah. Sur Instagram, c'est Sally, mais je mets Crazy Sally quelque part, comme ça, quand on cherche, on sait quand même que c'est moi.
D'accord.
Mais effectivement, il y a ce moment, ça fait un an maintenant.
Et où est-ce que tu as 900 000
sur Instagram.
Ah ouais.
Sur Instagram.
Mais alors, qu'est-ce que tu mets sur Instagram?
Très souvent, des condensés de mes vidéos. Donc, ça s'appelle des IGTV ou des réels, et c'est ce qui est le plus viral d'ailleurs d'un point de vue contenu.
Et tu en vis?
Ce que je poste, oui, j'en vis.
Donc c'est quand même un vrai nouveau marché, un vrai nouveau métier, créateur de contenu.
Totalement, mais c'est un métier. En fait, je parle
de confirme que c'est... Ah, oui. Que moi déjà, quand je fais ce que je fais avec toi là, et qu'il faut que j'en parle un petit peu sur les réseaux, c'est une agonie, c'est des heures.
Ah ouais, c'est
en plus, j'avoue que je ne maîtrise pas totalement Instagram, donc c'est compliqué. Quoi.
Non, c'est... non, en même temps, les gens
ne
réalisent pas avec plaisir. Mais par exemple, pour poster une story, ça peut me prendre une heure.
Je te confirme.
C'est une story. Donc non, c'est du
taf. Non, c'est chronophage.
Oui, c'est super chronophage. Surtout que, par exemple, moi, je n'ai pas de week-end, je n'ai pas de day off. Je travaille du lundi au lundi, non-stop, je suis tout le temps sur mon téléphone. La dernière fois, je regardais mon temps d'écran, je fais 18 heures de temps d'écran facile. Donc, je passe
ma journée
sur le téléphone. Donc, au niveau des yeux, je ne te cache pas, ma vue, elle en prend un coup. Mais même au-delà de ça, je suis 100%
dans ce travail. C'est une addiction, non?
C'est une addiction, ouais.
C'est plus que du travail.
Moi, je le vois comme une addiction parce que déjà, même dans ma vie de tous les jours, je réfléchis contenu. J'arrive plus à vivre un moment sans me dire « Ah, ben ça, il faudrait que je le mette sur Instagram ou il faudrait que peut-être sur YouTube. »
Tout le temps, dans la rue, tu te balades, machin, tac, tac.
Tout le temps, tout le temps. Et là, j'ai réussi à m'arrêter là, à un certain moment. Ça fait maintenant, depuis le début d'année, en vrai, depuis janvier, j'ai réussi à essayer de trouver un équilibre qui n'est pas encore celui que je veux. Mais avant, c'était hyper compliqué de vivre des moments sans penser au réseau derrière.
Et est-ce que tu penses à plus tard? Parce qu'influenceuse, tu es.
Ouais.
Même si le mot est galvaudé par deux, trois personnes,
Beaucoup plus que 2-3 personnes.
Oui, oui.
Mais
oui,
mais oui
ça va se réglementer un peu, c'est bien.
Oui,
ça.
Là maintenant, avec la loi, je pense
il paraît que
ça va
toutes,
être
les, toutes les mauvaises personnes sont en train de tirer la langue parce qu'elles se cassent la gueule.
Oui, oui.
Elles arrivent plus à payer leur loyer à Dubaï.
Ah oui, non.
Les pauvres.
Les pauvres. Ouais. Ouais, le business commence à devenir très réglementé.
Oui, mais tant mieux parce que ça va devenir un business un peu sérieux.
Business clean et où les gens se rendront compte que du coup, c'est une vraie fonction. C'est un vrai job.
Ouais.
Quand c'est fait correctement, ça donne envie, tu vois, de le crédibiliser,
d'appeler
ça un job.
C'est inouï ce qu'on a raconté sur les influenceuses qui gagnent 300, 400, 500 000 balles par mois en habitant Dubaï,
ouais,
sans payer d'impôts.
Mais après, c'est vrai.
Pour faire.
Ouais.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai. Il y a énormément d'argent dans le milieu. Hein. Par contre, ça, c'est une réalité.
Et ça craint pour les petites qui regardent, non?
Je ne sais pas si ça craint. Je pense que ça craint, bien évidemment, quand c'est du mauvais contenu. Mais moi, j'y vois aussi, d'un œil plus positif, une manière de créer de la richesse et des business avec une liberté qu'on n'aurait jamais pu avoir il y a 10 ans.
Ça craint autant qu'une télé-réalité un peu cheap, quoi. Avec des gens qui parlent mal.
Non, parce que du coup, télé-réalité, en ce qui me concerne, je trouve qu'il n'y a que du superficiel. Enfin, je n'ai jamais vu une télé-réalité profonde. Je n'ai jamais vu une télé-réalité où je me pose et je me dis « Ah ouais, quand même, il y a vraiment du bon dans cette télé-réalité. » Non. L'influence, il y a quand même vraiment du bon chez certains. Tu vois, il y a vraiment énormément de choses que tu peux apprendre.
Y compris à Dubaï.
Bah, Dubaï, ce n'est pas mon délire. Moi, je ne regarde pas. Donc, je ne pense pas. Mais après, je me dis toujours que dans le monde...
Parce que c'est rare d'avoir des influenceuses de ton niveau intellectuel et universitaire, par exemple.
Bah, je pense qu'il y en a quand même. Je pense qu'il y en a quand même. Mais c'est juste qu'on ne les met pas en avant parce que c'est une galère d'avoir du contenu engagé qui fonctionne. Moi, je le dis clairement, c'est
Pourquoi
difficile de faire ce que je fais. Bah, parce qu'il faut avoir le ton, il faut avoir le mindset, il faut avoir le bon... C'est très compliqué.
Oui, la bonne tête au bon moment, au bon endroit.
Moi, je le dis clairement, mais ça, je l'ai toujours dit de manière très honnête. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'à l'écran, je rends bien.
C'est sûr.
Qui fait que les gens adhèrent.
Moi, alors qu'en vrai...
En vrai, c'est pas trop ça. Non, sincèrement,
non, mais c'est vrai, je l'ai
toujours dit.
Non, c'est vrai, non, c'est pas vrai, le vrai. C'est vrai que c'est
ça plus... joue. Non, mais c'est,
bien sûr, c'est
un atout.
Tu vois, je suis arrivé au bon moment, j'avais une bonne tronche.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, du coup, il y a beaucoup de critères, finalement, pour faire du contenu engagé qui est rémunérateur. Et le problème, c'est
qu'il y en a beaucoup.
On va pas se mentir. Franchement, aujourd'hui, j'en connais 5 max.
Ouais.
Tu vois, max qui vivent bien de ça. Et le problème, c'est que ceux qui n'en vivent pas bien, ils finissent par un peu déchanter et abandonner parce qu'il y a des loyers à payer, il y a un train de vie à avoir.
T'as tout de suite gagné ta vie?
Non, au départ, en fait, moi, je ne peux pas...
T'as un petit peu de chance avec la famille, on va dire aussi.
Avec la famille?
Oui.
Pourquoi?
T'as un peu aidé au cas où, non?
Mes parents, ils m'auraient backup si je galérais. Mais quand je suis partie à Londres, je ne vais pas mentir, j'étais bien payée. J'étais très bien payée. J'étais très bien payée, j'étais à Londres, je vivais ma vie. Donc le problème...
Ah, je croyais que t'étais étudiante à Londres, moi.
À Londres, j'avais terminé. Moi, j'ai terminé mon Master 2 et je suis partie.
Okay,
donc, j'avais mon bac plus 5 en poche. Je voulais faire un doctorat.
Ah, mais c'est vrai que
tu as
ton bac à 12 ans. J'avais oublié.
C'est pour ça. Donc, moi, je travaillais. J'étais dans la vie active. J'avais mon salaire. Je n'ai pas quitté les études pour faire les réseaux sociaux. Parce que, justement, au bout d'un an, ça marchait tellement sur les réseaux que je me suis dit, il faut que j'aille à Paris pour capter la vibe. Il faut que j'aille à Paris pour concrétiser.
Pour capter là.
La vibe.
Si on me demandait en une phrase, t'es qui ?
Je me verrais comme ce que je suis. Je diviserais la question entre ce que je suis et qui je suis. Ce que je suis, c'est une femme qui essaie de faire entendre sa voix et d'impacter.
Oui, mais alors il faudrait finir. Pour quelle raison ?
Parce que je pense que le monde manque de personnes qui...
Pour faire du bien.
Ouais, qui font du bien.
Donc pour faire du bien.
Ouais, pour faire du bien.
Entendre sa voix, c'est ça.
Pour faire du bien, pour impacter même un minimum la vie de quelques personnes qui ont envie d'un peu, tu vois, de sentir représentées, de sentir touchées. Et après, ce qui je suis, je suis une créatrice de contenu, réalisatrice de mes documentaires, réalisatrice du contenu que je fais de manière générale.
Et qui produit ça?
Oui.
Non, alors, esthétiquement, je sais que c'est toi, et je t'ai félicité à l'antenne,
ouais,
parce
merci.
Que c'est, je suis producteur un peu,
ouais.
Et tu fais de la super cam.
Merci beaucoup.
Vraiment, c'est la super qualité.
Merci beaucoup.
Mais financièrement, c'est qui?
Mais c'est toujours moi.
Ah, c'est toi aussi.
C'est toujours Bibi. Après, ça dépend. Il y a eu des épisodes, par exemple, de ma série Motherland, donc série de voyages sur l'Afrique, qui a été financée par Brutix, par exemple, la plateforme Brutix. Donc ça, c'est arrivé une fois. Mais par exemple, celui qu'on a fait là au Congo, totalement financé par moi. Et les deux premiers, totalement
financés
par
moi. Et dans ces cas-là, quand tu vas dans ces pays-là,
ouais.
La raison, c'est...
C'est faire découvrir le pays avec une vision différente de ce qu'on a l'habitude de voir à la télé, quoi. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec les documentaires... avec, comme on dit, des petits Africains, quoi, en Afrique, tu vois.
Des
petits Africains. Ah. On voit des petits Africains qui meurent de faim et avec la maman qui explique qu'elle doit aller à 400 km à pied pour chercher de l'eau. C'est une réalité. Moi, je suis pas là pour dire que ça n'existe pas. C'est vrai. Mais il y a aussi tellement d'autres choses à dire sur le continent africain. Et je trouvais ça triste à chaque fois que... Enfin, moi, personnellement, quand j'étais jeune, tu sais, tu pars pas en vacances en Afrique. Tu pars pour voir la famine, mais tu pars pas en vacances. Mmh. Et quand tu voulais partir en vacances, moi, on allait en Espagne, on va en Italie, aux États-Unis si tu veux, mais t'as pas ce réflexe de dire, bah, hey, j'ai envie d'aller en vacances, je vais au Sénégal, je vais en Côte d'Ivoire, je vais au Congo. Et en grandissant, et Dieu merci, j'avais les moyens de le faire, je me suis dit, non, moi, j'ai envie d'aller...
Ton origine, toi, c'est...
Ma mère est marocaine et mon père est camerounais.
OK.
Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'aller visiter le continent africain. Et ressentir des choses. Et en fait, j'ai été choquée parce que le premier épisode, c'était au Sénégal. Je me suis dit, mais c'est magnifique. C'est magnifique.
C'est somptueux, l'Afrique.
C'est magnifique. Mais je m'en suis voulu de ne pas partir avec la sûreté, l'assurance que ça allait être magnifique. Et ça, c'est une réalité, tu vois. Tu pars toujours avec cette appréhension. Et même mes potes, hein, quand je leur dis, ils disent, ah, mais tu vois, je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette idée à déconstruire. Et expliquer que non, il y a des choses magnifiques en
Afrique.
Puis il
y a un petit peu de trouille en plus maintenant. Moins maintenant, oui. Mais il y a eu des moments,
ah, moment
quand il y avait les rebelles, les machins, ça c'était...
Bah oui.
Moi, j'avais pas envie de me retrouver en calbar avec un carton Sarkozy, help me, hein. Tu vois. Avec des mecs avec des kalachnikovs autour de moi.
Ouais, ouais.
Non, parce que je suis beaucoup allé en Afrique quand j'étais jeune, en Afrique
j'ai
de l'Ouest.
Image,
parce que j'ai
cette...
Ouais. Et après, j'ai eu un peu la trouille pendant quelques années, sans déconner. Hein.
Ouais, bah après, c'est légitime. Hein,
Mais même dans le monde aujourd'hui, t'as plein de pays qui sont absolument extraordinaires pour y aller et où c'est flippant, en fait. Donc, t'as pas envie d'avoir peur
en
vacances.
Oui, bien sûr. Il y a aussi ça. Ça, c'est une réalité. Mais il y a plein de pays qui étaient très calmes et qui ont quand même, malheureusement, subi ces préjugés-là, tu vois. Donc, c'est ce que j'essaye de déconstruire. Après, je suis pas du tout la seule à le faire, mais... C'est vrai que j'essaie de le faire un maximum. Quoi.
C'est qui la personnalité, puisque vous interviewez des personnalités.
Ouais.
C'est qui la personnalité dont vous êtes la plus heureuse de la rencontre?
Prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Ça, c'était incroyable.
Aux États-Unis?
Je l'ai rencontré
ici
au Congo.
Ah, au Congo.
Au Congo. Je suis partie dans son hôpital où il opère. Et, parce que du coup, c'est prix Nobel de la paix, donc c'est un gynécologue. Et on l'appelle l'homme qui répare les femmes, parce qu'au Congo...
Il refait les excisions.
C'est ça. Non, non seulement les excisions, mais aussi surtout les viols de guerre. En fait, donc, là-bas, les viols, c'est vraiment devenu le crime de guerre numéro un. Et il y a une guerre très intense qui sévit au Congo depuis des décennies maintenant. Et donc, énormément de femmes qui sont victimes de viols de guerre et qui sont dans des états horribles.
Psychologiquement, n'en parlons pas.
Psychologiquement, physiquement. Oh. Et il a ouvert, du coup, son hôpital à Panzi, donc au Congo, et au Congo Kinshasa. Et oui, il répare et il opère les femmes et il leur offre une nouvelle vie parce que du coup, elles restent à l'hôpital pendant toute la guérison, même longtemps après, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à réintégrer la vraie vie en société parce que c'est extrêmement traumatisant. Et on a eu vraiment l'honneur de pouvoir y aller. On a été reçus, on a découvert l'hôpital, on a pu rencontrer des femmes et on a rencontré le docteur qui nous a accordé du coup une vraie interview pour le coup. Et c'était extrêmement... C'était incroyable. Même aujourd'hui, je n'arrive pas à mettre les mots sur ça parce que...
Moi, j'ai connu une époque, je ne le connaissais pas, mais j'ai connu des femmes noires et qui connaissaient un médecin à Montpellier, je crois, et qui prenaient, je ne sais pas, 200 balles, 300 balles, le minimum, et qui réparaient beaucoup, beaucoup de jeunes filles victimes d'excision.
Ah ouais, ça aussi,
ça existe encore
c'est
beaucoup.
C'est un vrai sujet. Oui, ça existe aujourd'hui.
T'en as déjà parlé.
À la base, c'est une tradition.
Oui, je sais.
Donc, c'est pour ça que c'est dur à...
c'est une tradition compliquée.
Bah oui, tradition compliquée, mais une tradition quand même. Et du coup, c'est super difficile à supprimer définitivement.
Oui, mais pour des mômes qui sont nés en France...
Oui, mais ça existe, hein, ça, c'est un vrai sujet.
Et à qui on dit, ado, tiens, tu vas aller chez grand-mère au mois d'août, et puis...
Et en fait, surprise. Oui. Mais ça, c'est un vrai sujet. J'en avais déjà parlé. C'est ce que j'ai pas encore fait d'enquête, précisément, là-dessus.
Et les gens que tu rencontres, les femmes africaines que tu rencontres là-dessus.
Oui.
Non, mais j'avais fait un débat là-dessus. C'était une des plus jolies émissions parce qu'il n'y avait que des Africaines en boubou qui étaient là. On parlait d'un sujet super grave. Il y avait beaucoup de fond, c'était très intéressant. Et on a rigolé comme des fous parce que les femmes africaines sont très, très gaies. Mais elles étaient très... C'était toutes des mamans et tout.
Et il y en avait qui étaient pour, il y en avait d'autres qui étaient contre.
Oui, il y en avait très peu qui étaient pour.
Il y en avait très peu qui étaient pour.
Ouais.
Elles étaient plutôt contre. Pour l'excision
? Pour l'excision.
Voilà. Donc la plupart étaient contre l'excision.
Oui.
Ouais, bah oui.
Voilà.
Oui.
Mais néanmoins, il y a la coutume,
c'est
les pères aussi.
C'est ça. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est horrible, l'excision. Ça,
non, mais ce qui est horrible, c'est si en plus tu nais en France, qui est dentalisé, machin, puis tu vas en vacances.
Ouais. Ouais, mais les traditions voyage.
Ouais. Ouais.
Donc c'est ça qui fait, même si tu nais en France.
Si tu pourrais lutter contre ça, toi, par exemple. Ça pourrait être un sujet où.
Ah, mais bien sûr.
Oui.
Ah, oui, bien sûr, bien sûr.
Où tu t'engagerais.
Oui, bah, bien sûr.
Tu l'as jamais fait.
Oui. Non, pas encore. Pas encore. C'est un sujet dont j'ai déjà parlé. Je n'ai pas encore fait d'enquête dessus. Mmh. J'ai pas encore.
T'as rencontré des gamines
travaillé avec une asso. Non, jamais. Mmh. Il faut savoir aussi que parfois, il faut être psychologiquement préparé pour ce genre de choses. Moi, il y avait plusieurs fois où j'ai commencé à parler de sujets où finalement, psychologiquement, j'étais pas trop prête, donc j'ai backup.
T'es jeune en même temps, c'est ça
ouais,
le problème.
Il y a aussi ce côté.
Tu fais mature, mais t'es une gamine, ouais. Donc c'est compliqué.
Et ça me touche énormément.
Parce que moi, ma fille à ton âge, tu vois, je me vois pas lui dire les choses que je te dis, par exemple.
C'est vrai?
Non.
Eh ben voilà.
Ouais, tu fais mature, enfin voilà. Enfin, en même temps, tu l'es un peu, hein,
ouais,
on peut dire que tu te démerdes.
Non, ouais.
Non, mais tu te débrouilles.
Non, mais je suis mature, mais c'est vrai qu'intérieurement, je reste quand même une jeune fille. Pas une gamine, mais quand même une jeune femme, du coup. Mais c'est vrai que, par exemple, bah, quand j'ai rencontré le docteur et qu'on est allé à son hôpital, bah, j'ai pleuré. J'étais en larmes pendant presque toute la visite. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a peut-être des sujets où j'ai besoin d'être un petit peu plus mature, d'un peu plus prête psychologiquement pour vraiment en discuter et les prendre à bras le corps.
Et ça t'intéresserait pas en parallèle de Motherland et tout ça, de faire des espèces d'études parallèles de psychologie? Parce que vu ton cerveau, tu pourrais suivre ça assez vite quand même.
Mais en fait, il y a tellement d'études que j'ai envie de prendre. J'ai envie de reprendre des études de réal. J'ai envie de reprendre.
Ah.
Ouais, j'ai envie de reprendre des études. Je voulais faire des classes un peu à Sciences Po.
Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard, cette petite?
La réalisation, c'est ma passion.
Ouais.
Vraiment. La réalisation, la production, c'est vraiment.
C'est pour ça que c'est bien foutu, tes trucs.
Ah oui, je commence à tâter le terrain. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment ce qui me passionne. Puis sur le long terme, j'aimerais beaucoup avoir. Ma propre plateforme, tu vois, ne serait-ce qu'un show ou quelque chose où je peux vraiment prendre, tu vois, le pouvoir et le contrôle sur les sujets que je veux amener avec des collaborateurs qui viendraient, tu vois, ce sera une idée, le partage vraiment à l'état pur sur ma propre plateforme. YouTube, c'est super, mais je trouve que j'ai pas encore le concept qui me permet d'être vraiment identifié et moi de sentir, tu vois, en pleine puissance sur ma plateforme.
Et il faut trouver quoi, un financier ?
Ouais, pour ce genre de choses, oui. Mais ça, je pense pas que ce soit super compliqué, je pense que là, c'est plutôt un mindset, un état d'âme, tu vois, me sentir prête à faire ça et à animer ça. Pour le moment, je suis encore dans l'apprentissage, dans la découverte de moi-même. Ça fait que 4 ans que je fais ce que je fais. Je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration. Et puis surtout, même mes documentaires que je réalise, toujours. Donc là, j'ai envie encore plus de m'améliorer. Mais d'ici 2 ans, ce serait ça l'idée, tu vois. Ce serait quand même d'avoir ma plateforme, d'avoir sorti mes petits livres,
viens
etc.
Me voir.
Ouais, bah franchement. Avec grand plaisir.
Il faut bien un vieux sur la plateforme aussi.
Toujours, allez.
Tu vois, voilà. Toujours une parole de vieux, quelque part.
Ouais. Du vieux sage.
Bah ouais, voilà, ouais. Voilà. Bah, j'en suis pas encore là. Moi encore, j'ai un peu de temps.
Allez.
Dis donc.
Voilà. Tu dis que je suis une gamine.
Pas d'insolence. La gamine, c'est pas une insolence. C'est pas une insulterie. Hein. Donc, si on veut te trouver, on va donc sur Motherland, c'est ça?
On me trouve facilement plus sur Insta, @Sally.
D'accord.
Mais c'est vrai que ma série a son propre Instagram aussi, donc Motherland, on trouve aussi.
D'accord.
Sur YouTube, Crazy Sally.
Crazy
sur
Sally.
YouTube, ouais.
Et elles font combien tes vidéos? Combien de minutes?
Ben, ça dépend, mais très souvent c'est 30 minutes.
C'est
une petite trentaine de minutes, c'est des analyses, donc on va quand même loin dans le sujet. C'est pas juste une petite vidéo de 7 minutes quoi, ou 10.
Enfin, c'est très intéressant en tout cas.
Merci beaucoup.
Ah ouais, moi je conseille ça à tout le monde, hein, vraiment.
Merci beaucoup.
Bon, oui. Je suis très content, Sally, de t'avoir rencontré.
Oui,
on s'était dit qu'on se verrait, tu vois, moi je suis un garçon de parole.
T'as tenu ta parole. Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Et je chante même. De Savage à Scopin.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.